Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 25. La semaine dernière, nous avons vu la première partie de ces applications, du verset 17 jusqu'au verset 24. Et nous avons vu qu'il était important de ne plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Au verset 17, mais plutôt à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans les versets 23 à 24. Et aussi, nous voyons que l'apôtre Jean soutient cette même pensée dans son épître où il dit « Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui ». Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean chapitre 2, les versets 4 à 5. Il est évident qu'il doit y avoir un changement dans nos vies. Et Paul, conduit par l'Esprit, insiste sur l'expression pratique de cette vie nouvelle chez l'enfant de Dieu. Lisons ce passage. Donc dans Éphésiens chapitre 4 et les versets 25 jusqu'à la fin du chapitre, il nous dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Finalement, le dernier verset, là, c'est le verset clé qui résume toute la pensée. Et c'est là le titre de notre étude, « Soyez bons les uns envers les autres ». Vous savez, dans ce passage, l'apôtre Paul devient pratique, il traite des problèmes particuliers. Et ces problèmes ne sont pas hypothétiques, hein, s'il n'en parle pas parce que ça n'existe pas. Des problèmes de colère, de mensonges, de vol. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent se trouver dans les communautés chrétiennes. Et justement, il dit qu'elles ne devraient pas exister. Mais ce qui pourrait nous étonner, c'est qu'il ne mentionne que, en fait, deux des commandements du décalogue, hein, des 10 commandements de Moïse. Hein, on voit, il dit de ne point mentir, et nous connaissons ce commandement qui dit une portera point de faux témoignages. Nous voyons aussi, ici, il nous dit de ne dérober pas, et on connaît ce commandement qui dit « tu ne voleras point ». Mais on s'étonne qu'il ne mentionne que deux, alors que nous savons qu'il y en a au moins 6 qui ont affaire avec les relations horizontales, avec ceux qui nous entourent. Et puis les 4 premiers sont avec sont verticaux avec Dieu. On pourrait peut-être voir un troisième commandement qui est mentionné ici, parce que quand il parle de la colère, eh bien, nous pourrions penser peut-être à cette parole du Seigneur que nous trouvons dans le Sermon sur la montagne, hein, dans Matthieu chapitre 5, où Jésus, justement, il fait un commentaire sur ce commandement de « tu ne commettras point de meurtre, hein, tu ne tueras point ». Et il fait un commentaire qui va dans un sens différent de la pensée des pharisiens de l'époque. Et Je vous lis le passage dans Matthieu chapitre 5 et les versets 21 à 22. Il nous dit, vous avez entendu, c'est Jésus qui parle, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Donc on pourrait peut-être dire qu'il y a allusion à un troisième commandement, c'est de ne point tuer, mais... Pourquoi seulement cela? Est-ce que il mentionne cela parce que ce sont des problèmes qui existent dans l'église d'Éphèse? Écoutez, est-ce que regardons plus loin et regardons un peu, méditons sur ce passage et la pensée générale du passage, et vous noterez avec moi, en fait, ce qui l'intéresse. Ce n'est pas l'acte lui-même, mais c'est l'intérêt du corps. Vous voyez déjà au verset 25, et, il dit à la fin du verset, « Car nous sommes membres les uns des autres. » Il dit, « Vous renoncerez au mensonge, car vous êtes membres les uns des autres. » Il dit au verset 28, « Ne pas dérober, mais plutôt d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Donc, il pense à l'autre. Au verset 29, il nous reprend sur le choix des mots qu'on pourrait avoir, et il recommande qu'on ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, encore une fois, il donne cette exhortation, mais en pensant aux besoins du corps, de l'ensemble des croyants dans ce corps de Christ ou dans l'Église. Il dira aussi, au verset 31, il dit qu'il n'y ait plus d'amertume, d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie, d'espèce de méchanceté, du milieu de vous. C'est-à-dire, encore une fois, ça se trouve dans la bouche de l'un, ça, c'est pas bon parce que c'est dans le tout, dans le corps. Et puis après, nous voyons bien sûr le verset 32 où il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors là, nous voyons encore une fois qu'il pense au groupe. La société dans laquelle nous vivons nous encourage à l'affirmation de soi, à la recherche de l'intérêt personnel, et nous comprenons pourquoi. Parce que dans ce monde, si moi je ne défends pas mes intérêts et si je ne recherche pas mon bien, personne n'y pense. Et nous comprenons pourquoi c'est un principe dans la vie de tous les jours. Hein, il faut se battre, et il faut se défendre, il faut s'affirmer, il faut s'imposer, il faut harceler parfois même pour obtenir ce qu'on veut. Mais dans le corps de Christ, eh bien... Le principe de base, c'est que chacun recherche le bien de tous et de chacun. C'est comme dans un couple. Si c'est chacun pour soi, le mariage ne durera pas longtemps. Mais si chacun fait attention au bien-être de l'autre, le mariage deviendra une inspiration aux autres. Et donc, je dis que l'attitude... Et ma motivation et ce qui m'anime, c'est le bien du corps, le bien de tous. Et peut-être ça peut paraître comme quelque chose d'idéaliste, mais vous savez que pour Dieu, il n'y a pas d'idéal. Pour lui, c'est ce que nous appelons idéal, c'est la norme pour lui. Et c'est ce que doit être vrai pour tous. Dans l'Église, de ceux qui sont renouvelés dans l'esprit selon Dieu et qui cherchent vraiment le bien des autres. Si nous regardons dans les évangiles, par exemple, et nous comparons le comportement des pharisiens par rapport à celui de Christ, nous voyons que les pharisiens, oui, eux, ils pouvaient prétendre et l'affirmer qu'ils gardaient tous les commandements. Hein, l'apôtre Paul l'a exprimé lui-même, hein, qu'il était quant à la loi, eh bien, qu'il était sans faille. Mais ces mêmes pharisiens qui prétendaient garder la loi, mais finalement, ils pouvaient être insensibles aux besoins du peuple. Si Jésus guérissait quelqu'un un jour de sabbat, eh bien, il se fâchait. Et le jour de sabbat, qui était pour Dieu, eh bien, eux, ce jour-là, ils se permettaient de se fâcher et de même faire des projets de tuer Jésus. Voyez à quel point ils étaient insensibles. Donc, par contre, Jésus, lorsque nous le voyons, il cherchait toujours le bien des autres. Il soulageait la souffrance, il soulageait dans le deuil, il soulageait dans la faim, il soulageait dans l'handicap. Il était toujours là, prêt à aider, à réunir une famille. S'il y avait un qui avait la lèpre et qui ne pouvait plus rentrer à la maison, il le guérissait pour qu'il puisse rentrer et être avec sa famille. Et il le faisait même si personne ne s'occupait de lui. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a cessé de chercher le bien des autres. Ce qu'il était, il l'était. Peu importe ce que les autres étaient. Hein, il s'exprimait, c'est ça, c'est un caractère divin. Et en fait, c'est ce qu'on doit retrouver chez les enfants de Dieu. Si vraiment nous avons reçu cette nouvelle vie, eh bien, cet attribut de toujours être ce que nous sommes en Christ, plutôt que d'être une réponse au comportement des autres. Si nous regardons maintenant, nous revenons à notre passage là, et nous voyons là, Paul dit de ne pas mentir, hein, de renoncer au mensonge. Ce n'est pas parce que c'était un péché plus grave que les autres, mais il s'en sert pour illustrer une réalité, pour souligner l'importance du bien-être du corps, l'importance que nous devons donner au bien-être du corps, de toujours nous souvenir que c'est le fait que nous sommes en Christ qui s'impose sur tout notre comportement. Quand on parle de mentir à un frère, hein, si on est en train de mentir à un autre membre du corps, imaginez une situation où votre œil ment à vos pieds et lui donne une information erronée. Eh bien, qu'est-ce qui arrive au corps? Eh bien, ou il tombe, ou bien il s'égare. Et donc, on ne trouverait pas normal, hein, c'est ça que lorsque nous voyons un athlète, nous voyons que tous les membres se disent la vérité, ils coordonnent, il y a une coordination qui est belle à voir, et c'est beau de voir les sports différents et comment les membres du corps travaillent ensemble pour obtenir des résultats. Eh bien, mais c'est parce qu'ils ne mentent pas les uns aux autres. Alors, pourquoi est-ce que dans le corps de Christ, un membre mentirait à un autre membre de Christ? Et mentir, c'est donner une information qui induit le prochain dans l'erreur. Parfois, on se justifie en disant « mais ce que je lui ai dit était vrai ». Oui, mais la manière dont je l'ai dit, ça l'a induit dans l'erreur, parce qu'en l'entendant, il a pensé à autre chose qui m'a arrangé, en fait. Et donc, nous ne devons pas mentir. Vous savez, le mensonge, c'est ce qui caractérise le diable. C'est l'attribut principal du diable. Comme la vérité est un attribut principal de Dieu. Hein, donc, il nous dit que Jésus a dit aux pharisiens, il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir des désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas la vérité en lui. lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable ne peut que dire la vérité, le mensonge. Il ne sait pas dire la vérité. Il ne peut que tromper. Il ne peut qu'égarer. Donc, en fait, c'est pour cela que marcher dans la vérité est la chose normale pour l'enfant de Dieu. Il doit toujours dire la vérité. Il n'est pas obligé de dire tout ce qu'il sait, mais ce qu'il dit doit être vrai. L'apôtre Jean, parlant de ceux qu'il avait amenés à Christ, eh bien, il dira « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 1 Jean chapitre 1, verset 4. Donc, c'est la vérité doit nous caractériser. Nous disons la vérité les uns aux autres parce que nous sommes membres d'un même corps. C'est la manière de souligner le fait que nous sommes membres d'un même corps. De la même manière, l'apôtre Paul va parler de la colère. Il dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez point », ce qui est difficile. Ce n'est pas un péché de se mettre en colère, parce qu'en général, la colère, c'est une réponse à une injustice. Et les injustices, vous savez bien, il y en a partout. Il y a des raisons pour se mettre en colère. Mais souvent, eh bien, nous ne savons pas contrôler cette colère et parfois elle est disproportionnée par rapport au problème et par rapport à la faute. Et donc, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais il a dit, ça arrivera que vous vous mettiez en colère, que quelqu'un fasse quelque chose qui provoque votre colère. Et la colère est une bonne chose, hein, c'est une force. C'est ce qui peut nous donner, c'est une force dans laquelle nous pouvons puiser pour chercher à corriger une injustice ou à défendre quelqu'un. Et lorsque cette colère est contrôlée, il ne parle pas d'une rage, là, il parle de la colère. Mais le problème, vous savez, la colère, souvent, eh bien, on s'en sert pour se défendre des injustices contre soi-même. Alors que ce serait plus facile de se contrôler si on traitait des injustices qui arrivent aux autres. Souvent, notre colère est pour des raisons égoïstes et pour notre bien, et on ne réagit pas pour la même injustice. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, on ne réagit pas de la même manière. Donc, rien qu'en cela, nous sommes injustes. On n'est pas équitable. Hein, finalement, on s'est mis en colère pour ce qu'on a ressenti plus que pour l'acte lui-même. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est de cette colère qui nous met en colère et que vous péchez. Hein, si vous avez péché dans votre colère, eh bien, alors là, eh bien, il vaut mieux la régler le plus tôt possible. Et même avant le coucher du soleil. Parce qu'une colère entretenue est une souffrance pour les personnes dont il est question et aussi pour tout le corps. Tout le corps est mal à l'aise, il y a un malaise et ce malaise va diminuer la communion qui va exister entre les frères et sœurs. Et une communion qui n'est pas rétablie va un peu favoriser la séparation. Sans parler des jugements qui peuvent être portés les uns sur les autres. Et puis après, si elle n'est pas corrigée, il y a un moment où on commence à déterrer les cadavres du passé. Et là, c'est pas agréable du tout. Et puis après, il peut y avoir une amertume qui s'installe dans la pensée et qui va déformer notre vue sur toute chose, et notre manière de concevoir, et notre manière de voir, et de comprendre, et d'interpréter. Et donc, ça fausse tout. Et ça déforme la vue, ça déforme la pensée, ça déforme, et bien sûr, tout le corps est souffrant. Et donc, la colère, c'est une chose qu'il faut régler, parce que nous cherchons d'abord l'intérêt du corps. Et puis, pire que cela, le verset suivant, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Dans un sens, il dit, quand vous mettez en colère et vous laissez agir la colère et vous la maintenez, eh bien, c'est comme si vous ouvriez une fenêtre pour le diable, qui rôde comme un lion rugissant, hein, nous dit dans 1 Pierre 5,8. Et vous savez que lui, il saura en profiter. Et toute cette souffrance, dont je parle là, toute cette souffrance, pas seulement la personne qui s'est mise en colère, non seulement celle qui a subi la colère, mais tous les autres, il y a une gêne qui s'impose et tout le monde, il y a un malaise. Et tout cela, pour tout le corps, parce qu'une personne était trop fière pour régler le problème et pardonner. Et malheureusement, c'est trop souvent comme cela. Et donc, il nous dit, la colère, eh bien, quand elle est là, et quand il y a eu des paroles blessantes, et quand il y a péché dans cette colère, hein, elle n'était pas pure comme la colère de Dieu, mais vraiment intéressée ou impartiale ou injuste, eh bien, il dit, réglez-la avant le coucher du soleil, et pour que le malaise ne s'installe pas dans le corps, dans la communauté. Ensuite, Paul passe à autre chose et il nous dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Et c'est intéressant de voir à quoi il pense quand il dit de voler. Parce que, en fait, ce n'est pas le fait, c'est pas celui qui braque une banque, ce n'est pas celui qui commet des grands vols, hein, mais il est en train de parler dans le corps, hein, c'est le vol au sein du corps. Ce serait celui, parce qu'il dit à cette personne, il dit plutôt que de voler. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Donc, il s'agit d'une personne qui pourrait travailler et qui a les capacités de travailler. Et en fait, quand il est en train de parler du vol, il parle de celui qui vit du bien des frères alors qu'il a la capacité de travailler et acquérir pour lui-même ses biens. Certains pourraient être tentés de devenir paresseux en profitant de la générosité des autres, alors qu'ils auraient les moyens de gagner leur vie et avoir de quoi assister ceux qui sont dans le besoin. Lisons un peu pour comprendre cette pensée, parce que Paul la développe dans 2 Thessaloniciens. Je vais vous lire ce passage, parce qu'il y a une demi-douzaine de versets là. 2 Thessaloniciens, et au chapitre 3, et je lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Voilà, suivez-moi, voyez de quoi il parle quand il pense au vol. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Il dit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. » Vous allez remarquer combien de fois il mentionne le désordre. Et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous, non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce désordre? Eh bien, voilà, au verset 8, il dit, « Car nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et puis il ajoute, aux frères qui sont, pour ceux qui sont généreux, et eh bien il dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, il ne s'adresse pas à ceux qui sont généreux, il dit, écoutez, ne soyez pas généreux parce qu'il y en a qui profitent de vous. Il dit, non, vous êtes généreux, soyez généreux. Mais ce sont ces gens-là qui profitent, et alors qu'ils pourraient obtenir pour eux-mêmes, il dit, ça c'est du vol. Il appelle ça du vol. C'est justement, c'est en parlant à ces anciens d'Éphèse que l'apôtre Paul, hein, nous trouvons dans Actes chapitre 20, il avait rassemblé quelques anciens de l'église d'Éphèse, et en Actes chapitre 20, et je lis les versets 31 à 35, il laisse avec eux une dernière recommandation, et il dit veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et donc, il est en train de dire, en fait, bien sûr que c'est le chrétien, par amour, veut aider, veut être généreux, veut répondre à un besoin. Mais il a dit, celui qui a les moyens de répondre à ses propres besoins, s'il continue à profiter de la générosité des autres, cela devient du vol. Et alors, là, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille. Et pensez à cela. Rendez compte que quand il aura réglé cela, cette personne qui a profité de la générosité des autres, qui se reprend, qui va travailler, et maintenant, non seulement est-ce qu'il répond à ses propres besoins, mais en plus, il a de quoi donner à quelqu'un qui est dans le besoin, donc il y a déjà lui et un autre qui en profite. Et puis, il y a aussi la personne dont il jouissait de la générosité, cette personne-là peut aider quelqu'un d'autre qui est réellement dans le besoin. Et donc, moi, je compte un minimum de 3 personnes. Et on peut imaginer plus, mais il y a un minimum de 3 personnes qui, tout d'un coup, eh bien, satisfont à leurs besoins. Leurs besoins sont satisfaits. Celui qui dérobait maintenant parce qu'il ne dérobe plus. Et puis après, celui qu'il aide en profite aussi. Et puis après, il y a celui qui donnait à ce premier frère, eh bien, après, il peut donner à quelqu'un d'autre. Et donc, finalement, c'est les besoins du corps de Christ sont soulagés parce qu'on est en train de se concentrer sur ceux qui ont réellement besoin. Celui qui ne peut pas travailler, bien sûr qu'on va être généreux, on va l'aider. Mais celui qui peut travailler ne doit pas dépendre de la générosité, mais plutôt doit être quelqu'un qui donne. Hein, donc, c'est là. Et c'est pourquoi ? Parce qu'on cherche l'intérêt du corps. S'il y a trop de monde qui profite des autres, finalement, ça va manquer. Hein, mais si tous ceux qui peuvent pourvoir le font, eh bien, le corps de Christ en bénéficiera. Hein, il y aura plus grande joie comme ce qu'on voyait dans l'église primitive de Jérusalem, quand tout le monde partageait les biens. Et finalement, on arrive aux paroles, parce que vous comprenez bien que l'importance des mots et des paroles dans le corps de Christ. Hein, nous sommes un corps, il y a communication, tout comme dans notre corps physique, il y a des nerfs qui vont dans tous les sens pour communiquer des bonnes et des mauvaises choses, et des actions, des ordres et tout ça. Et donc les paroles sont importantes dans le corps. Mais pas n'importe quelle parole, parce que il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le mot mauvais, là, ça a ce sens de ce qui est putréfié, de ce qui est pourri. Hein, donc, ça a l'odeur de la mort. Et donc, il dit qu'il n'y ait pas un tel langage hein, dans le corps de Christ. Et nous savons combien des paroles peuvent blesser, parfois plus que les actes. Donc, l'enfant de Dieu, celui qui a été renouvelé, donc maintenant qui a une autre pensée, qui a une pensée qui est plus en accord avec celle de Christ, qui cherche le bien d'autrui, qui cherche le bien du corps, eh bien celui-là, eh bien ce qui sortira de sa bouche, ce sont des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Non seulement la personne à qui on s'adresse, mais tous les autres qui entendent, soit directement, soit qui indirectement, eh bien, tout le monde est encouragé par ces paroles-là. Et ce sont des paroles qui vont encourager, qui vont édifier, qui vont construire, qui vont instruire, qui vont donner de l'espérance, qui vont communiquer le pardon et l'amour. Et tout le monde va profiter spirituellement de toutes ces paroles-là. Donc, c'est important de... Donc, l'apôtre Paul parle et dit de renoncer au mensonge, de plus se mettre en colère sans la régler s'il y a eu péché. Il dit de ne pas dérober, hein, de ne pas profiter de la générosité de quelqu'un d'autre alors qu'on pourrait pourvoir à soi-même. Et puis aussi l'importance des paroles. Et tout cela dans le contexte du bien-être du corps de l'Église locale, par exemple. Parce qu'il a dit, en fait, ces choses-là, lorsqu'elles ne sont pas respectées, eh bien, elles attristeront l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, eh bien, il est là pour... L'Esprit de Dieu, son œuvre, est là pour unir les chrétiens, pour les construire, pour les édifier, pour les rapprocher. C'est lui qui crée cette communion. Alors, si nous faisons des choses... Qui vont dans le sens contraire et ont défait son travail, eh bien, là, bien sûr qu'il va être attristé parce qu'il est une personne, il n'est pas, comme certains disent, un pouvoir, il est une personne, c'est une personne de la Trinité. Et donc, il y a des sentiments. Autant il apporte la joie, autant il apporte la consolation, autant il peut être attristé. Ce sont des émotions réelles. Nous ne devons pas avoir un comportement qui nuit à un frère. Un frère qui, lui, a été sauvé par le sang de Christ, comme moi. Un frère qui a été scellé par le Saint-Esprit lui-même pour la rédemption. Comment est-ce que je peux rejeter, maltraiter un frère ou une sœur pour qui Christ est mort ? Tout ce qui provient de l'époque de notre marche comme les païens, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, eh bien, n'ont pas lieu d'être, quelle que soit la raison. Souvenez du comportement de Jésus-Christ sur la croix, alors qu'il était insulté par la foule qui était devant lui, insulté même par les brigands qui étaient crucifiés avec lui. Et comment est-ce qu'il a répondu ? Eh bien, il a dit, Père, pardonne-leur. Encore une fois, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est que nous devons répondre selon ce que nous sommes en Christ et non pas selon ce que nous étions. Hein, parce que maintenant, nous ne marchons plus comme les païens qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Mais maintenant, nous marchons selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Nous devons nous tester de temps en temps et nous voir et nous dire, mais dans notre temps de réaction par rapport à quelque chose, combien de temps est-ce qu'on a besoin d'être provoqué, combien de temps est-ce qu'on a besoin d'être dérangé, combien de fois, avant que nous réagissions, comme nous réagissions avant de connaître de Christ. Est-ce que il y a un décalage? Est-ce que il y a une on est plus porté lorsque devant l'insulte, devant l'injustice, devant la provocation, devant la tentation, l'épreuve, est-ce que nous réagissons comme les païens, comme quand nous étions païens autrefois, non-croyants, ou bien est-ce que nous réagissons comme Christ le ferait maintenant? Et nous devons voir, et nous devons, et dans le corps de Christ, eh bien, je vais pas être, c'est pas une question de bonnes œuvres, c'est pas une question de pas faire de mal, c'est une question de chercher l'intérêt du corps de Christ. L'évangile n'est pas une religion avec des règles qu'il faut suivre pour devenir bon. Comme on l'a dit tout à l'heure, les pharisiens suivaient les règles, mais ils ne devenaient pas bons. Et l'apôtre Paul a compris cela aussi. Il a compris qu'il gardait toutes les lois de Dieu, mais il était devenu un homme violent et même un meurtrier. Tandis que nous voulons finalement être conduits par une pensée qui cherche le bien du corps. Et parfois même il le faut aux frais de ses propres intérêts, mais parce que je cherche le bien du corps. Alors des fois, je n'ai pas ce que je veux, ou exactement comme je le veux, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a, mais c'est parce que je cherche le bien du corps. Et donc, cette parole qui résume tout ce que nous venons de dire, eh bien, il nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Et si on aurait bien voulu avoir un point là, hein, donc vous pardonnant les uns les autres, bon envers les uns les autres, vous pardonnant réciproquement, on aurait dit oui, d'accord, ça on peut le faire. Mais vous savez ce qu'il a dit, il a ajouté, il a dit vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hein, c'est facile de réciter la prière, notre Père, et de dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, et puis on continue. Mais Jésus s'était arrêté, il a dit non, non, mais si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ou vous serez pardonné comme vous pardonnez. Hein, et ce n'est pas seulement une question de quantité, mais c'est une question de qualité aussi du pardon. Et donc, sommes-nous prêts à pardonner aussi rapidement que Dieu nous a pardonné? Est-ce que lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, est-ce qu'il nous a fait attendre pour le pardon? Est-ce qu'il nous a dit, eh bien, écoutez, je vais attendre pour voir des preuves de changement dans votre cœur avant de vous pardonner? Ou est-ce qu'il nous a pardonné de suite? Vous savez, le brigand sur la croix, eh bien, il l'a pardonné. Et puis le jour même, cet homme était au paradis. Hein, donc voilà la vitesse du pardon de Dieu. Et donc aussi, nous devons pouvoir pardonner immédiatement. Et généreusement, hein, comme Dieu nous a pardonné. Et parfois, le pardon se fait à nos propres frais, parce que c'est nous qui avons été on l'a perdu, c'est nous qui avons été blessés, c'est nous qui avons, on a subi quelque chose. Mais même si c'est à nos frais, vous savez, le pardon de Dieu, c'était à ses frais aussi, hein, et ça a coûté la vie de son fils. Donc, ne soyons pas difficile à accorder le pardon à un frère. Et tout cela, c'est pour justement cette bonne ambiance, ce bon esprit de corps qui est dans l'Église de Jésus-Christ. On ne doit pas attendre que les autres se comportent bien. C'est à moi de prendre l'initiative, d'être ce que je dois être. Et c'est par mon exemple, eh bien, que je vais encourager d'autres à ne plus marcher selon la vanité de ses pensées, comme les païens, mais à plutôt maintenant de revêtir Christ, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, afin de vivre selon ce que produit la vérité. Donc, que le Seigneur nous aide, et nous devons, je vous invite à prendre le temps de vous arrêter Et en entendant cette parole, quelles sont les pensées qui sont venues à votre esprit? Peut-être il y a une chose qui n'est pas réglée encore, peut-être il y a une faiblesse, peut-être il y a un problème quelque part qui n'est pas réglé. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vous dit que cette chose-là, tu dois la régler avant de pouvoir continuer. C'est pour ça que tu ne progresses pas. Le Saint-Esprit est attristé à cause de quelque chose. Et donc, c'est la meilleure chose, c'est de le confesser, de le régler. Et s'il faut le régler avec quelqu'un, c'est de le régler avec cette personne-là, afin que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Parce que si le Saint-Esprit est triste, eh bien, il y a la tristesse dans notre cœur. Et nous ne pouvons pas avoir la joie que nous avions eue le jour de notre salut. Que le Seigneur nous aide et soyons fidèles et n'oublions pas l'intérêt du corps de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.